C'est bon original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali.
Oui. Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bon, Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Et nos invités, Joe Star et Kouchen MTM.
Oh. Ça, c'était loin des grosses têtes.
Non, pas vraiment. NTM se reforme, on va en parler. Merci en tout cas les garçons de venir nous expliquer ce qui va se passer pour que l'on comprenne bien. Est-ce que c'est juste un concert? Est-ce qu'il y a un disque en préparation? Est-ce que ça va durer longtemps ou c'est juste un happening? Un coup d'épée dans l'eau. Voilà, toutes les questions qu'on vous a déjà sûrement posées. Mais Tom Villa, est-ce que vous avez compris pourquoi Joe Star et Kouchen étaient nos invités?
Ouais, c'est la première fois où j'ai compris. Ah. J'ai très bien compris la venue de nos invités. Déjà, quel plaisir de pouvoir dire nique ta mère à un invité sans qu'il y ait le moindre malaise. Ça fait plaisir. Les tauliers du rap français, le Supreme NTM, les Peter et Sloan du rap Sofran, qui vont jouer à Bercy.
D'ailleurs,
je l'ai dit très vite. Non, si vous voulez acheter une place, tardez pas parce que hier, ils ont vendu 30 000 places en 9 minutes. On peut le dire, c'est propre. Hein. T'as presque envie de dire, bah, ouvrez une quatrième date.
Il rajoute des dates.
Il y a encore des dates qui arrivent.
On va en parler.
Troisième date.
Il y a 8, 9 et 10 mars 10, ouais. À Bercy.
Il y a encore des places sur le 8. Ouais. Ouais.
D'accord, mais ça part très vite.
C'est pas Bercy, c'est le fameux Hôtel Accor Arena.
Non, c'est Bercy.
Ouais, Hôtel Accor Arena, au même titre qu'il y a le Stade Matmut Atlantique à Bordeaux. Il y a le MM Arena au Mans. On va voir la Ligue 1 Conforama l'année prochaine. On remarque que les marques investissent, c'est pas les marques qui font rêver. Hein, j'attends la Ligue des Champions Kinder Bueno et Roland Garros Saint-Maclou. Ça va faire ça aux États-Unis. Putain, ils ont le taureau rouge des Chicago Bulls sur le maillot de basket. Nous en France, on a les brioches Pasquier. Sans déconner, ça fait pas. Bon, on s'en fout. Vous allez jouer à Bercy sans avoir sorti.
Ils payent. Donc voilà.
Ouais, payez pas, c'est pas grave. On veut pas voir le logo. Non, mais sans avoir sorti nouvel album NTM depuis 20 ans. Et j'ai envie de dire, tant mieux parce que c'est vrai qu'on va voir des concerts. On a envie de voir les tubes, quoi. C'est vrai qu'il y a rien de pire que de se cogner une heure du nouvel album dont tu t'en bats les steaks pour entendre les deux, trois tubes à la fin. Surtout qu'en plus, à Bercy, il y a du monde. Et moi, je suis un peu claustro, donc je pars toujours un peu avant à la fin des concerts, tu sais, pour pas être tassé dans le métro. Donc là, que des tubes de NTM. Alors, comme beaucoup de jeunes, j'ai écouté vos albums en boucle avec des titres qui, pourtant, me parlaient pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Moi, j'habitais en Seine-et-Marne. Donc, si on foutait le feu, ça ruinait deux champs de blé et 3 hectares de forêt. En Seine-et-Marne, à part une poubelle jaune, c'était risqué. Moi, j'aurais adoré rapper. D'ailleurs, un coup, j'en avais parlé à mon père.
Donc imagine la déception qu'elle bat terre quand son fils lui a dit je veux rapper comme Denis ta mère.
Il m'a mis deux tartes dans la gueule, j'ai fait du tennis. Ouais, direct. Non, mais 25 ans ont passé depuis vos débuts, donc ce matin, forcément.
Calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
50 ans, les gars. Comment on est passé dans le rap français?
T'as un problème?
Vous avez plus, vous.
Un problème.
Comment on est passé de NTM?
Bah, toi, tu rappes pas, toi.
Ah, c'est vrai, ça, je te confirme.
Et heureusement.
T'as moins de questions. Comment? Moins de questions. T'es animateur, t'es vieux, ça va, ça passe.
Comment on est passé de NTM à Jul? Alors, je sais que pour l'auditeur de France Inter, c'est pas le meilleur expert en rap français. En gros, comment on est passé de ça?
Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils.
Laisse pas traîner ton fils. NTM, formidable. À Jul.
On m'appelle l'OVNI.
Alors l'autre, il nous a mis une musique de fête foraine. À tout moment dans la chanson, je me suis dit, il va nous vendre une barbe à papa ou les pommes d'amour. C'est pas une chanson, c'est une sonnerie de téléphone. Donc vive le retour du Supreme NTM et vivement l'accord Hôtel Arena. Bonne journée.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Ouais. N'empêche que c'est une bonne question. Comment on est passé de ça à ça? C'est vrai.
Même si on veut pas se moquer, franchement, ça fait un peu fête foraine. Hein.
Mais ouais.
Non, mais lui, il se moque tout seul, de toute façon.
Mais vous êtes.
Mais
vous
le
êtes,
public est là.
Vous êtes toujours considéré. Bah, la preuve, c'est la manière dont l'information.
La foire du trône aussi.
La manière dont l'information a été prise et surtout le succès de ces places. 3 dates et on imagine qu'il y en aura une 4e parce qu'il n'y a pas de raison vu la vitesse à laquelle ça se passe. Déjà, vous. Est-ce qu'il y a eu un petit doute quand on vous a dit on se reforme, 2 dates à Bercy, vous avez dit waouh, 2 dates, ça va être chaud à remplir ou vous êtes sûr de votre fait, vous savez que le public sera là, ce qui est déjà le cas. Mais bon.
Bon, déjà le mot on se reforme, on s'était pas vraiment séparé, on était en 2008, on avait fait des concerts, puis on a mis ça en stand-by comme on avait fait la dernière fois, il n'y avait pas vraiment de break, on s'est pas dit on refera jamais de concert.
Non, mais quand on n'a pas de nouvelles, quand on n'a pas d'album, quand il y a des carrières solo,
bon, de toute façon les albums, on a toujours dit que
qu'on en ferait pas vraiment. Que l'enjeu pour nous c'est juste d'aller faire du live en fait. Nous on a un groupe live au départ, faire des disques, c'est parce qu'il fallait en faire. Mais sinon, on aurait fait que du live.
Ouais, voilà. Mais quand tu fais du live, il faut amener du,
bah, du frais. Il faut amener du contenu, mais bon.
Non,
voilà.
du frais. Bah, du frais ou... Parce que ouais, le contenu, bah, vous l'avez.
Pas forcément, regarde.
Ah bah, est-ce qu'il y aura du
ta grande gueule,
est-ce qu'il y aura du frais ou pas en mars?
Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? On vient au concert, gars. Tu verras. Non, mais il y aura du frais. Y aura... Ouais, déjà, on va pas vendre la même chose qu'on a vendue en 2008. Et puis, on verra bien. Qui vivra verra, comme dirait le poète.
Non, mais on a juste envie de savoir. De quoi vous avez envie?
Mais écoute, ça suffit.
Mais évidemment.
Soyez gentil.
Évidemment, on va pas resservir. Il vient de le dire. Donc, on va remixer des choses. Et puis si. Si on répète, on trouve un peu d'inspiration.
C'est
il y aura peut-être des nouveaux trucs.
L'inspiration, elle vient du.
Non, mais de toute façon, même nous, on ne sait pas ce qu'on va faire réellement. Ouais. Hein. Enfin, on connaît nos morceaux, mais la mise en scène, l'ensemble du truc, on ne sait pas encore. C'est trop loin. C'est au mois de mars. On n'a pas commencé à bosser dessus.
En fait,
donc même les infos, on peut pas trop. Genre, tu me dirais les feats qu'il va y avoir sur le truc. Je peux pas vraiment dire. Il y en a qui sont évidents, mais. Mais globalement, on n'a pas encore fait la setlist, rien, quoi.
Comment est venue l'idée? Qui a eu cette idée? La proposition, c'est les plannings qui tombaient bien. L'envie vient d'où?
En fait, ça, c'est jamais nous, c'est ça le truc. En fait, au départ, ça devait se faire parce que on devait faire un TM and Friends pour le Secours Pop. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, et puis surtout, il y a moins d'un an, j'ai fait un Olympia, il est venu chanter avec moi, donc du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas sortir le bébé pour qu'il se dégourdisse les jambes un peu.
Donc le concert pour le Secours Populaire, ça c'est...
En fait, ça va se faire plus tard.
Ça devait être cette année, d'accord. Mais avec les agendas, on pouvait pas... ça devait être au mois de mai, j'avais du taf moi au mois de mai, lui aussi, donc c'était compliqué. Donc on a dit, on va refaire ça.
Ça fait partie de l'opération que fait le Secours Populaire pour les enfants qui peuvent pas partir en vacances.
Absolument.
Et de créer un événement, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit pas loin de l'été.
Absolument.
D'accord. Voilà. Donc ça c'est un problème de planning juste.
Ouais.
Très bien.
Donc ce sera l'année prochaine.
Ok.
C'est-à-dire qu'ils partiront pas en vacances cet été, tu comprends?
À cause de
puisque
nous.
Puisqu'on parle du Secours Populaire, je rappelle que, et c'est nouveau, vous pouvez envoyer des dons avec des textos, les SMS, c'est très simple, vous faites 92 222 et dons, vous rajoutez dons 1, dons 5 ou dons 10 si vous voulez donner 1 euro, 5 euros ou 10 euros et c'est pris directement sur la facture du téléphone. Petit clin d'œil à toute la bande du Secours Populaire qui fait un travail de dingue justement pour que tout le monde puisse en profiter. Retour sur NTM, donc vous dites que vous perdez pas de vue, est-ce que ça veut dire que chacun suit aussi un tout petit peu ce que fait l'autre? Par exemple, est-ce que tu es allé au théâtre, cool, est-ce que tu es allé au théâtre voir...
J'étais programmé pour y aller, j'ai eu un...
Le réveil a pas sonné, c'est quoi?
Non, c'était pas le réveil. Non, j'ai eu un empêchement.
D'accord. Ouais. D'accord. Et de la même manière.
C'est dommage parce que c'était un très beau spectacle. On vous avait reçu pour ça et la sélection des textes était dingue et puis l'interprétation aussi.
Bon, bravo.
Il va y en avoir encore.
Ouais, c'est à lui que je dis.
il va y en avoir encore dans le courant de cet été, c'est ça? Il y a une.
Je crois qu'il y a une date dans la région parisienne en juin, je crois.
Ça veut dire que Jack, à un moment donné, tu vas te...
Ah bah il est au courant en avance, hein, mais il viendra pas quand même. Hein, ici,
À Courbevoie, mais c'est le 7 décembre.
Ah,
donc
c'est loin de chez moi, à Courbevoie.
Il craint.
Pourquoi vous habitez à Melun?
J'habite très très près de Courbevoie, mais en fait, je suis pas là.
À Caluire, le 9 octobre, le 6 octobre à Chartres, le 21 septembre à Lausanne, et puis il y a le Festival d'Anjou, donc à Angers. Ça sera le 15 juin prochain, là, dans moins d'un mois que ça arrivera.
Il y a d'autres dates qui vont s'inscrire en chemin, entre septembre et... l'année prochaine.
À
l'étranger aussi. Ouais.
Quand on parle de l'évolution du rap, tout à l'heure, Tom, évidemment, on a fait un énorme clin d'œil. Quel est votre regard, vous, sur le rap ou la jeune génération du rap?
Déjà, est-ce qu'on peut appeler ça une évolution?
C'est carrément autre chose, en fait. Avant, on parlait de hip-hop, aujourd'hui, on parle de game, quoi. Aujourd'hui, on est à quelque chose de plus décomplexé, quoi. On crache à la gueule de l'auditeur, on affiche ses thunes, on dit qu'on en a rien à foutre, on pisse dans la gamelle, c'est un peu plus la posture du moment, quoi. C'est-à-dire, plus tu fais gangster, plus c'est, quoi.
Ça, c'est quoi? Voilà. C'est l'exemple américain?
Je ne généralise pas, tout le monde n'est pas comme ça, quoi.
Non, mais c'est l'exemple américain, c'est-à-dire qu'il faut que dans les clips, il y ait des voitures de sport avec des filles en maillot qui...
Ou alors des pick-up avec une piscine à l'arrière, et plus des meufs, et un building à l'arrière de cette piscine, dans le... par exemple.
Il y a des vacances de Nagui.
Je pense qu'il y a... Je dis bien, pas en généralité, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus là pour la posture que pour la musique, quoi. Il y a moins, de moins en moins de gens qui aiment la musique. Tout ce qui les intéresse un peu, c'est la posture et d'en être, quoi.
Ouais, mais vous aviez aussi une posture. C'est-à-dire que les textes.
On aimait la musique, nous.
Oui, mais les textes que
Le principal, c'est d'aimer la musique. Tu vois ce que je veux dire?
Il y avait quand même un fond dans les textes aussi. La musique était là, le son était là.
Ça, encore, c'est pas un problème qu'il y ait pas de fond. Parce que s'il y a de la musicalité, c'est aussi, ça peut être un principe aussi intéressant.
Mais prendre l'exemple, excuse-moi, de quand tu parlais même de meufs et tout, on a fait Ma Benz, nous, par exemple, tu vois. Ça raconte pas grand-chose, c'est pas très social comme thème. Mais l'originalité de la prod et la façon dont c'est fait, ça ressemble à rien d'autre. Aujourd'hui, ils reprennent des formats existants américains, nous, ça a jamais été notre truc. Ce qui était important, c'était d'avoir une touche française, donner une identité au hip-hop français. Aujourd'hui, malheureusement, ça ressemble un peu trop à du copier-coller. Après, le truc qu'on peut dire, c'est que là, on généralise. Effectivement, il y a aussi plein de gens qui font des trucs très bien aujourd'hui.
Qui ça, par exemple?
Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler des autres.
Le problème, c'est que je lui pose une question, je m'en fous pas vraiment.
Tout le monde s'engouffre dans le wagon, quoi. Dès qu'il y en a un qui a l'impression de trouver une formule, tout le monde s'y met, s'y colle, et donc il n'y a plus trop d'originalité.
Non, mais là, je lui demande ses goûts, par exemple.
Non, mais je peux vous dire, voilà, Furax Barbosa, par exemple, Ali La Craps, Jeff Lenner, voilà, mais ce n'est pas des gens qui sont vraiment beaucoup mis en avant, quoi. Mais c'est des gens qui ont beaucoup de choses à dire, et qui font des albums en boucle, mais malheureusement, ils ne sont pas très, très exposés, parce qu'ils ne sont pas dans le format actuel. Voilà.
Oula, le format actuel, c'est-à-dire qu'il y a des radios qui décident de ce qui passe,
pas
la radio.
Je veux dire, on a des oreilles, on entend bien que le rap aujourd'hui c'est auto-tuné, les voix, tu sais même pas trop qui est qui, enfin à moins d'être vraiment...
Auto-tuné, ce sont des ordinateurs qui fabriquent
qui modifient la voix, qui créent des mélodies, donc voilà, forcément ça perd un peu de l'identité. Et puis après, ce qu'il disait Didier, c'est que voilà, ce qui est raconté, enfin, on sent que c'est quand même dans la posture.
Ça vient de quoi, la perte d'identité? C'est un besoin de gagner de l'argent rapidement? C'est le commerce qui l'a remporté sur la sincérité.
Mais parce que ça ressemble à la société d'aujourd'hui. Ils sont pas, enfin, les jeunes, ça sort pas comme ça. Ils sont pas nés capitalistes comme ça du jour au lendemain. Non, enfin, à un moment donné, les mecs qui écrivaient dans le rap, ils avaient des trucs à dire parce que ça grandissait dans des endroits qui étaient pas faciles et qu'on avait envie de dénoncer parce qu'on habitait là et qu'on avait les pieds là-dedans. On n'était pas syndicalistes, on n'était rien du tout. On avait juste les yeux ouverts et on racontait des choses. Les choses ont évolué, quoi. Les jeunes, aujourd'hui, tu leur poses un peu des questions, ils ont 13 ans, ils disent « qu'est-ce que tu veux faire ?» et tout. Ils disent « ouais, putain, c'est bien quand même, télé-réalité. » Mais c'est du vécu, c'est même pas une caricature. Hein, les anges, ouais, mais t'as vu, il y a un projet pro, tu sais, ils disent ça, quoi. Je te dis ça parce que je suis en train de parler de mon fils, tu vois, donc c'est honteux, quoi.
Je suis désolé.
À un moment donné, je le regarde et je lui dis, genre, mais tu les vois, les guillemets, parce qu'il se marre quand même. C'est-à-dire, quand il entend une faute de français, il se tourne, il fait, pfff, quand même. Mais de temps en temps, il mate et je lui dis, mais t'es sérieux et tout. Et il me regarde, il me dit, ouais, mais il y a un projet pro quand même derrière.
Le port du maillot de
ça va, il a 13 ans.
Il a 13 ans et puis ça va. On parle avec mon fils, donc tu sens que c'est quand même un peu dangereux.
Mais
quoi.
La jeunesse a été aussi dans Nuit Debout. Les jeunes sont aussi attirés par les insoumis, donc il se passe quand même.
Il y a dans Nuit Debout, c'était combien, mec?
Et puis surtout,
il s'est passé un truc.
Il y avait qu'une partie de la jeunesse à Nuit Debout. Il y a certains quartiers qui ne sont pas déplacés à Nuit Debout.
Excuse-moi.
Il y a très peu d'enfants de 13 ans. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas restés.
Non, mais je parlais pas des enfants de 13 ans. Je parlais de la jeunesse.
Ça restait assez homogène comme groupe à Nuit Debout. C'est vraiment une jeunesse.
C'est un exemple de merde que t'as sorti, donc.
Je l'assume mon exemple. Le son, c'est une chose, vous y attachez beaucoup d'importance. Vos titres partaient toujours d'une ligne de basse, de son, de sample, avant même d'avoir un texte. C'est le son qui provoquait la colère ou l'énergie du texte?
Généralement.
Ouais.
Plus vers la fin. En fait, au départ, on écrivait quand même pas mal de textes, parce qu'on n'avait pas assez de prod qui était composée, donc on écrivait sur des trucs ricains parfois, et donc après il fallait trouver la prod pour l'adapter, ce qui est plus compliqué. Mais après, non, on a fonctionné autrement, on avait quand même plus les prods en amont et on écrivait dessus, parce qu'effectivement une prod, ça...
Moi, le mot colère me dérange un peu, en fait, en écrivant réaction A, quoi, pas parce qu'on était en colère. On est en colère par exemple pour ce qui se passe en ce moment, mais pas au moment d'écrire, on relate, quoi.
Puisque tu parles de ce qui se passe en ce moment.
C'est de la violence, mais c'est pas de la colère, quoi.
Ouais. Alors justement, la violence, l'actualité, on parle d'un concert qui va se passer à Bercy. Vous avez entendu l'information qui s'est passée à Manchester la nuit dernière, où malheureusement un attentat terroriste a provoqué plusieurs morts et plusieurs blessés. Quand on va se produire sur scène, on a aussi forcément une responsabilité. Est-ce qu'il y a un flip? Est-ce qu'on pose des questions aux producteurs en disant qu'est-ce qu'il va y avoir en termes de sécurité? Faut pas que ça arrive, évidemment, ce genre de catastrophe. Comment prévenir?
Non, mais ça va être un sujet qui va être abordé, quoi, évidemment, avec les producteurs. Mais
c'est chaud quand même quand on prépare des concerts comme ça.
Je pense qu'ils en avaient parlé avec le producteur aussi sur le concert là. Hein, en Angleterre, quoi. Ouais. C'était évidemment, quoi.
Faut pas dire que c'était en dehors du concert. Hein. C'est au moment où le public sort pour aller prendre les métros, les trains. C'est-à-dire que c'est une zone qui n'est pas sécurisée par les responsables du concert. Mais on a quand même le sentiment que c'est encore une fois une attaque.
Actes de grande lâcheté pour les prévoir, c'est super dur, quoi. Voilà, quoi. Donc, on est à l'abri de rien maintenant. Je pense que tout le monde le sait. On a en plus les médias bien anxiogènes qui nous tiennent en haleine toute la journée. Voilà, mais je pense que tout le monde est au fait de ça, quoi. Qu'il n'y a plus d'endroit, que ce soit en province ou n'importe où, quoi. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Tu veux dire, il n'y a plus d'endroit où
il y a plus aucun endroit. Dès qu'il y a un regroupement de personnes, voilà, ça peut nous tomber dessus n'importe où, quoi. Je pense que tout le monde le sait, mais. On doit continuer à vivre, non ?
Et sortir et aller au concert. Et c'est ce qui se passera au mois de mars à Bercy. Il y a Bercy pour l'instant, une tournée prévue ensuite.
D'accord, Arena, il te l'a dit tout à l'heure, bordel.
Ouais, moi ils m'ont pas payé pour le dire. Donc c'est à Bercy, c'est la station. Il y a une tournée qui est prévue après ou pas ?
Ouais, il y a des dates prévues, des festivals pour l'instant.
D'accord.
Et puis ça se met en marche, quoi.
Il y a une réédition d'un album, une remasterisation, c'est un best-of. Qu'est-ce qui va sortir ?
J'en sais rien.
Ah, moi non plus.
Y a quoi ? Ah d'accord, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des albums qui ressortaient.
T'as de la chance.
Remasterisés, vous n'êtes pas au courant ?
Non.
D'accord, ok. Et
est-ce qu'on a l'air d'en avoir quelque chose à
mais vous avez les droits de ton album ou pas ?
C'est pas nous qui les avons écrits. non, je sais pas. Ah bon, il y a remasterisé. Bah, quand même, si c'est remasterisé...
Vous me chauffez, vous n'êtes pas au courant ?
Non, ma parole d'honneur. Non, je te jure, je ne suis pas au courant de cette histoire.
D'accord. Non, parce que moi, je voulais savoir s'il allait avoir des extra bonus, des bonus dessus.
Peut-être, non, mais ça
ils nous l'auraient demandé. Un
featuring de Jules, je sais pas, un truc à annoncer. Lorsqu'on t'a annoncé la venue de Joey Starr et Cool Chain, tes oreilles ont sifflé, là.
Oui, et quand je pense à tous les deux, je pense à une danse, un moyen d'expression, là encore, qui vous a réunis.
Ça fait 20 ans que je chorégraphie, que je danse. Et la danse hip-hop a grandi, a pris une maturité, s'est confrontée à énormément de choses. Et j'ai eu envie, en fait, de faire une sorte d'un hommage à cette culture, à cette danse. Et aussi de montrer dans ce spectacle The Roots que la danse hip-hop n'est pas qu'une danse de la performance, mais qu'elle peut être aussi ailleurs. Elle peut être une danse de la poétique, une danse du sensible.
C'est le danseur et chorégraphe Kader Atou qui parle de son dernier spectacle The Roots. C'est un des chorégraphes qui a fait rentrer cette danse vraiment sur les scènes de la danse contemporaine, qui lui a donné une forme de légitimité, si tant est qu'elle en avait besoin. Et je me suis replongée dans quelques vidéos et j'ai retrouvé des moments de danse. Vous, Joey Starr, dans les années 80, en Italie par exemple, dansant le breakdance. Et je crois que c'est un peu tous les deux cette danse-là qui vous a mené à extérioriser, à vous rencontrer et à poursuivre le chemin.
Ouais, effectivement.
Vous êtes le premier à avoir, par exemple, passé la coupole. C'était quand même un truc un peu important. La coupole, faut l'expliquer. Je vais vous laisser le faire.
C'est compliqué à expliquer. Hein.
Non, mais c'est un mouvement.
Mouvement de hip-hop, qui était assez impressionnant à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle les passe-passe. C'était les premiers petits trucs et c'était la première grande phase. Donc, on s'est évertué à copier les Américains pour essayer de le faire le plus vite possible en décalage avec eux, parce que forcément ils inventaient les mouvements avant nous, mais c'était un peu le challenge, c'est de se rapprocher de cette culture le plus proche possible des Quinri.
Voilà. Et comment vous avez découvert cette danse tous les deux, Joey Starr?
Déjà, il faut pas oublier qu'on a Monsieur Bernard Zécry qui est avec nous et qui fait quand même partie des gens qui ont ramené les Rocksteady Crew et les New York City Breakers en France. C'était ça, ouais.
On va en parler dans une dizaine de minutes avec Bernard.
On était là, on était témoins de ça, quoi. Voilà comment on a découvert
Sugar Pop.
Ça, entre autres. Et puis, il y en avait d'autres qui traînaient au Trocadéro. Enfin, on chinait, on traînait. Donc, forcément, on était un peu au courant de ce qui se passait, quoi. Là.
Donc, on loupait l'école, par exemple, pour aller danser, pour aller.
Oui, mais enfin, c'est, voilà, bon.
C'est pas un jugement.
On est devenu autodidacte.
Mais c'est pas un jugement parce que vous êtes devenu danseur professionnel, vous, par exemple, par la suite.
Je rigolais moi-même.
Ah, ouais, d'accord.
Il faut se détendre. Non,
je me méfie. Mais je me méfie parce que je vois pas vos yeux, en fait, Joey Starr. Donc, c'est.
La radio, c'est pas important.
Non, mais on se parle quand même. Oui, c'est pas le fait que les gens vous voient à la maison, voilà. C'est que moi, je vous vois un minimum.
D'accord. C'est-à-dire, quand on parle à Joey Starr, on se voit soi-même.
Voilà.
Oui, non, à peine.
Il y a le reflet. Donc, c'est un côté introspection particulier. Ouais.
Donc, juste, c'était pour revenir sur ce moment-là, parce que je trouvais que c'était intéressant de voir comment NTM, par la suite, a pu introduire aussi ce rapport à la danse, à cette culture-là. Vous êtes nourri de quoi à l'étranger? On parle de Bernard Zécry qui va parler tout à l'heure, de vidéos. Comment, à l'époque, dans les années 80, on trouvait tout ça?
Ouais, c'était par le biais de vidéos, quoi, le peu de trucs qui pouvaient passer. Je me souviens d'une fameuse émission sur M6 où ils avaient enchaîné pas mal de clips ricains où il y avait pas mal de danse dedans, donc on avait enregistré avec le magnétophone, quoi, le magnétoscope, pardon.
Et donc la VHS,
c'est un vieux mot,
la VHS et la pause ont fonctionné.
Voilà, absolument. Pause, retour. Mais comment il met son bras ou il met sa jambe, tu vois. Non, ça ressemble à ça. Mais en tous les cas, nous, ça nous a permis de sortir de notre routine, quoi. Et puis c'était nos premières escapades sur Paris. Voilà, rencontrer d'autres gens, cette culture, parce qu'on savait pas à quoi ça ressemblait au départ. On s'est dit quand on a vu
le plaisir de faire un spectacle aussi. C'est ce qu'on va retrouver à Bercy, j'imagine. C'est le plaisir de faire un show.
En tous les cas, on a fait des shows. On était dans la perf, quoi. Tout ce qu'on faisait, quand on a fait du graffiti, de la danse, et l'idée, c'était le challenge, quoi. On est un peu, on a fait pas mal de sport.
Vous étiez les athlètes, jeunes, ouais.
Donc on avait, on s'est retrouvé dans cette histoire. C'est surtout par rapport au fait que il y avait de la perf, il y avait du challenge, et non pas juste un petit truc, le plaisir de faire du spectacle. C'était pas une kermesse, le truc, quand même, tu vois, je veux dire.
Non, mais monter sur scène, ça procure aussi, j'imagine, un frisson qui.
C'est un tout, quoi. Voilà. C'est un... tout, et puis c'est devenu notre mode d'expression. Voilà, faut que ce soit dynamique, faut qu'en face ils en prennent plein la gueule.
Enfin, mais
voilà,
parce qu'effectivement on vient de la danse, je crois. C'est-à-dire que très tôt, c'est un challenge contre les autres. Parce que dans le hip-hop, c'est très ça, quoi. Genre, tu vas t'entraîner chez toi et puis le samedi, il y a l'endroit où on se rend compte et on va voir si t'es meilleur. Tu vois, c'est un peu du sport.
C'est la confrontation.
C'est la confrontation dans toutes les disciplines. D'ailleurs, le rap, il y a les clashs.
Les clashs,
tu vois, c'est. Donc ça fait partie de cette culture, et donc forcément quand on s'est mis à rapper, on avait aussi ce souci de performance et de cette notion de show, en gros.
Ouais, mais on oublie souvent que NTM vient de là, enfin en tout cas j'ai la sensation que c'est vraiment...
Quand on nous voit sur scène, on sait qu'on vient de là, quoi. Je pense que
quand
ça,
on a
que
la chance
ça
de
voit,
voir sur scène,
ça...
ouais.
Y'a pas de flûte d'improdé, échappement, tous rondés, vrai hip-hop donc fraudé, maintenant sont faire trondé, fort savoir qu'ils sont les chefs du camp noir, ayant un d'eux, voilà des mecs pleins d'eux, style arcant sur le vide, comme dans la vie, mec à rien d'eux.
Donc je confirme qu'il y aura bel et bien la sortie d'un best-of avec des remixes et remasterisés. Il y aura même des versions vinyles. Mais vous en aurez des exemplaires, je pense.
Merci.
C'est votre producteur. Il va y avoir des débats sur la tracklist, sur la setlist, sur les titres que vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà, ou il y a des évidences, il y a des incontournables, les titres qui font que le public, s'il achetait déjà les billets, tu t'as dit à 30 000 billets en quelques
9 minutes,
ouais. c'est qu'il y a une urgence pour eux à avoir des titres.
Non, mais évidemment, c'est comme t'as dit, quoi. Il y a des évidences, il y a des incontournables, tu peux pas faire, tu vois, sans. Et puis en plus, on n'a pas trop de nouveautés, donc forcément, il y a un moment donné, une partie du spectacle, on la connaît, quoi. Non, mais après, c'est une question de est-ce que tu la joues avec les musiciens? Est-ce que tu le fais sur platine? Est-ce que tu modifies ça? Est-ce que tel couplet change, évidemment? Et après,
Mais vous avez vos préférés, vous aussi, j'imagine, qui sont pas forcément les plus commerciaux.
Non, mais après, on va discuter, comme tu l'as dit. Il y a aussi genre, celle-là, j'ai pas envie de la faire. Enfin, pourquoi on fait pas celle-là?
Alors, t'as envie de faire laquelle, toi?
On va pas faire la setlist maintenant.
Non, mais un titre.
Il y a 80% sur lesquels on est d'accord.
Ah non, mais je cherche pas des discords, je cherche juste à savoir.
Je sais bien. Non, mais j'en ai plein là. Je sais pas, tu veux quoi? Un incontournable. Ah, d'accord, c'était ça, pardon.
Un thème.
Je sais pas, je t'aurais dit. Mais tu l'as mis, non? Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, non?
Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? On l'a mis tout à l'heure, ouais. Et toi, Joey, s'il y a un titre que t'aimes par-dessus tout?
Un par-dessus tout, non, ça marche à l'humeur, quoi. Il y a des jours avec et des jours sans, mais.
Et l'humeur du jour?
Je sais pas, à jouer, c'est surtout, des morceaux comme Plus Jamais Ça, Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, Saint-Saint-Ni Style, entre autres.
Ouais, tout ce qu'on a.
Il y en a toute une salve, franchement.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque ah, sous ton nez.
Wow, c'est trop fort, dis donc.
Pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Plus de sang de bois, le cœur. Le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton
nez. Faut dire que Joey filme tout ce qui se passe.
Ah oui, faut vraiment suivre le compte Instagram de Joey Star.
Faut vraiment que les gens soient témoins, quoi.
De quoi?
Bah, de rien, du néant.
Instagram, de la vacuité.
Témoin du néant, quoi. Il y a plein de petits fils de pute qui m'insultent en même temps, tu vois.
Donc, voilà.
Mais ah ouais, alors, t'inquiète, toi.
Justement, on parlait tout à l'heure des enjeux à la télé-réalité, de votre fils Coolchen et tout. Justement, vous, vous êtes beaucoup sur Instagram, Joey. Comment vous...
Bah, parce que tu sais, quand on est artiste, on passe plus de temps à attendre qu'à acter. Donc, ouais, je m'occupe comme je peux.
Ouais, mais justement, est-ce que vous mettez tout ce qui vous passe par la tête ou...
Ouais, c'est un genre de carnet de bord, le truc, tu vois. Et puis, bon, comme j'ai beaucoup de détracteurs, bah, ça me permet de leur répondre, les traiter de fils de pute, leur montrer mes couilles, faire des
trucs. Bien.
Voilà, quoi. Comme je suis ce qu'on appelle un éternel prépubère, du coup, bah, j'y trouve mon compte, quoi. Voilà.
J'aime bien l'équilibre des deux, c'est-à-dire entre les phrases shootées par Joey Star, les réactions de Coolchen derrière. On voit bien la complémentarité extrêmement sympa de ce groupe qui fait donc ses 30 ans.
Oui, sauf qu'il y en a un qui va pas voir l'autre en spectacle.
Il y en a un qui a assez vu l'autre.
Pas croit qu'on a oublié.
Je t'ai dit, il y en a un qui a assez vu l'autre en fait.
Et Joey, vous allez voir quand il joue au poker ou pas?
C'est ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Ah ben moi je joue tout juste à la bataille, tu vois. En fait. Rester à table, bon, pour faire de la promo, je suis un peu obligé, un peu contraint, c'est une contrainte par corps là tout de suite. Mais sinon pour manger et quelques discussions un peu intéressantes avec la gente féminine. Voilà.
Les 30 ans d'NTM fêtés donc les 8, 9, 10 mars, ça sera à Bercy, à Paris, puis ensuite une tournée dans les festivals d'été, et puis il y aura également la publication à nouveau de Suprême NTM, sortie il y a 20 ans, rééditée, remasterisée, que ce soit en CD ou en vinyle. Voici l'humeur de Frédéric Siglis.
Alors dans 20 jours, ce sont les législatives, et je le vois autour de moi, Nagui, hein, les Français, ils en peuvent plus de la politique.
Ils en ont marre.
Ah, ils en ont marre, mais ils en ont marre. Ils en sont même à un point où ils préfèrent s'intéresser à ce que dit Cyril Hanouna qu'aux législatives. Et pourtant, c'est étrange, parce que Cyril Hanouna a l'habitude de faire avec la bouche, que je fais habituellement avec le derrière. Ah, et les législatives qui arrivent si vite après la présidentielle, c'est normal. Je veux dire, c'est trop proche. C'est un petit peu comme Tati Josette qui, au repas du soir, te sert de la raclette, alors qu'à midi, elle avait déjà fait un hachis parmentier. Tu sais, tu la regardes, tu dis, mais mamie, j'ai les dents du fond qui baignent. Elle te répond, oh, allez, il te reste bien une petite place. Et ben, c'est pareil. Les législatives, c'est l'élection de trop ou celles qui arrivent trop tard. C'est-à-dire, on demande quand même aux Français de s'intéresser à des hommes et des femmes moins connus que Mundir de Koh-Lanta, alors qu'ils ont encore en tête les superstars de la présidentielle, des gens comme Jean Lassalle. Mes chers compatriotes, le seul homme qui est capable de parler comme un disque qu'on passerait à l'envers. T'es, ou Marine Le Pen, la seule politicienne qui a réussi à faire barrage au Front National quand même. Hein. La présidentielle, c'était une super production hollywoodienne, c'était un blockbuster qu'on regardait en IMAX avec des lunettes 3D. Les législatives à côté, c'est une vidéo YouTube tournée dans une cave avec une caméra DV. La présidentielle, c'est un album de NTM. Les législatives, c'est un EP de Maître Gims. Même les politiciens, ils y croient plus. François Baroin, c'est l'homme qui a la voix de Joey Starr dans Le Corps de Vianney. Eh ben, il voit bien que dans son camp, tout le monde a déjà pris son billet pour aller rejoindre Macron. Quand il organise un meeting, plus personne vient. Dimanche dernier, Raffarin, il lui a envoyé un SMS. Coincé dans le RER, peut pas être là, pense bien à vous, gros bisous, Raffi. Laurent Wauquiez, lui, il a carrément renoncé aux législatives. Lui, désormais, le parti LR, c'est son viager. Il attend que tout le monde meure pour le récupérer. Juppé, lui, il est parti sur autre chose. Hein, pour avoir le swag, à la Edouard Philippe, il a décidé de se laisser pousser la barbe et de se mettre au Krav Maga. Hein, Juppé, il va terminer sa vie hipster avec des pantacours et des chemises à carreaux, tout en faisant ses courses au Nouveau Robinson. François Fillon, lui, il passe toutes ses journées dans l'ancien boulot de sa femme, c'est-à-dire on sait pas où. Hein, ces législatives, c'est mission impossible pour François Baroin. Parce que ça va être difficile de convaincre Macron de cohabiter avec un Premier ministre de droite, vu qu'il cohabite déjà avec un Premier ministre de droite. François Baroin, il cherche le resto pour faire la cour à Macron, alors qu'en fait, Macron, il est déjà dans son lit. Au Parti Socialiste, c'est pas mieux. Même les Pakistanais, ils vendent plus de roses dans les restaurants pour pas être associés au PS. Cambadélis, il propose des heures de ménage gratuites en échange d'un logo PS sur une affiche. Même en tout petit, hein, tout ça. Jean-Luc Mélenchon, depuis sa défaite, il s'est brouillé avec les communistes, avec les écologistes, et des rumeurs disent qu'il n'adresse plus la parole à un de ses hologrammes qui aurait commencé à lui faire de l'ombre. À un journaliste qui lui demandait si c'était pas étrange de se faire parachuter à Marseille pour les législatives, il a répondu « Je suis partout chez moi ». Moi, depuis que j'ai entendu ça, je ferme ma porte à clé. Même pour les humoristes, l'heure est grave. Hollande qui s'en va, c'est tout un pan de l'humour qui s'écroule. On avait su se remettre difficilement de son départ, du départ de Nicolas Sarkozy, grâce à François Hollande, qui avait été admirable pour nous faire oublier. Lui sous la pluie, lui sous la foudre, lui sous les déjections de pigeons, lui sur son scooter. Mais Macron, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec lui? Il est drôle comme une présentation PowerPoint. Il est lisse comme un cul de bébé talqué. Non, franchement, et en plus, quand tu vois les nouvelles du jour, ce qui s'est passé à Manchester, tu te dis que, vu la période d'entre-deux dans laquelle on se trouve en ce moment, je pense que cette semaine, c'est pas un pont de 4 jours qu'il faudrait faire, mais un pont de 4 mois.
Merci, Frédéric Sévis.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Joey Starr et Cool Chain sont nos invités. Nous allons évoquer quelques dates de leur vie mises en musique par nos soins. Savoir que, par exemple, dans les années 60, au moment où on entendait ça à la radio... I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Naissance donc de Bruno et Didier dans les années 60. Vous aviez, vous avez grandi, en tout cas, cool dans une. Avec une éducation. Votre papa était menuisier ou dans le bâtiment?
Il est menuisier d'origine et après il a fini dans le bâtiment.
Il a fini dans le bâtiment. Si on pouvait résumer en une phrase les valeurs dans l'éducation, parce qu'on cherche tous à transmettre vous à vos enfants des valeurs, lui il a cherché à vous transmettre quoi comme valeur?
Déjà beaucoup d'amour à la maison. Je sais pas si c'est des valeurs, mais en tous les cas il y a beaucoup d'amour à la maison. Et l'honnêteté, le travail, voilà, ce qui paye c'est bosser, quoi. C'est un peu un père à l'ancienne, hein.
Mais efficace, quoi.
Ouais, ça a été.
C'est pour ça que je parle de valeur.
Pour moi, c'était plutôt efficace. Je suis pas considéré comme un feignant, donc voilà, tout va bien.
Justement, le rêve au début, c'était d'avoir plutôt une carrière dans le monde du football que le monde de la musique pour tes frères comme pour toi.
Ouais. Mais tu veux dire de pour mon père ou pour
toi?
Non, moi je pensais être footballeur. Ouais. Je voulais être footballeur depuis pas la naissance, mais depuis que j'avais conscience de ce qu'était le football.
En supportant l'équipe de Paris forcément ou une autre?
J'ai supporté l'OM au départ de ma vie, bizarrement.
Non, mais c'est souvent le cas en fonction de partout en France, je crois.
En fait, ils avaient ramené des Brésiliens.
Il y a des fans partout en France.
Non, mais je dis ça parce que je suis un fan du PSG aujourd'hui et que ils avaient ramené des Brésiliens dans les années 70. Il y avait Escobar et tout ça. Donc voilà, c'était la grande équipe. Moi,
il n'était pas super brésilien, Escobar, hein, mais.
Et il y avait Escobar et il y avait Magnusson, c'est ça que je voulais dire. Okay. Et ensuite, quand j'ai eu l'âge d'aller au Parc des Princes avec mon frère. Bah, il m'a converti pour le PSG. Voilà.
L'école t'intéressait pas trop, et puis après il y a eu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le rap, la danse, mais c'est le point de départ, ça a toujours été le sport ou le dépassement en tout cas de. Il faut pas que je m'arrête là, il faut que je.
Ouais, la philosophie, ouais, ouais c'était ça, quoi. C'est pour ça que quand on a trouvé le hip-hop et qu'en plus il y avait cette histoire de challenge dedans, ça me correspondait vraiment. Hein.
Joey, dans ces années 60, vous subissez le divorce de vos parents en s'installant chez papa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est les valeurs, c'est l'éducation. D'accord. Qu'est-ce qui est à retenir de ce que votre père vous a transmis?
De ce que mon père m'a transmis, écoutez, je me suis un peu fait tout seul grâce à lui, au final, parce que... Je pense que pour lui, l'école, c'était un peu comme une garderie, quoi, vu qu'il consultait pas trop pour savoir. Il se rendait dès qu'il y avait des plaintes, quoi, mais voilà, sinon, il s'en préoccupait pas trop de ce qui se passait, quoi, mais il avait l'impression de m'éduquer en étant comme ça, quoi. Donc c'est un peu de la désertion, quoi.
Et quelle est l'influence maintenant sur l'éducation que vous apportez, la transmission que vous apportez à vos enfants?
Comme je viens de le dire à l'instant, je me construis tout seul, donc tout le reste aussi, ça vient en chemin, quoi. Voilà,
tu t'as construit le rôle de père,
donc voilà, dans mon rapport avec les gens, tout ce qu'on peut me reprocher, mais c'est parce que pour le reste, je me fais tout seul, comme plein de gens, qui ont subi un peu cette désertion parentale.
Dans les années 90, début officiel d'NTM, donc la constitution du groupe remonte à l'été 89, c'est la date que l'on retient un peu partout. Vous êtes moyennement d'accord,
on est au 88, le groupe de rap, tu veux dire rap,
ouais.
Ouais, 88, ouais, je dirais.
88, ok. Ouais. Et justement, à propos de rap, il y avait ce titre.
Frôlant l'exploit de par ma voix, mon rap t'assomme, mes rimes te donnent la cadence pour entrer dans la danse, sans pour autant te sentir étouffé par ma prestance, ni par ma prestation, car je fais un carton et toute mon lyrique. Enregistre pas le son, ça semble clair, limpide, facile à faire. Mais tout est étudié, chaque parole est dosée, pesée. Pour renforcer, rehausser la qualité de mon phrasé, n'est-ce pas, Joey?
Sans problème, chaîne, je reprends. Adaptant l'élément, contrôlant, dominant la prose, elle brille. Débridant son degré, arrachant chaque effet, la dégustant tel un mets. Ma bouche gronde, virtuose, oui,
a donc l'info. Joey qui dit il faut qu'on refasse ça. Je rappe donc.
Et dis sur les lèvres en plus, tu es du FBI.
C'est un ancien ventriloque.
C'est, ah, c'est ça, c'est tout, d'accord. Ah, c'est toi, Tintaillot, c'était toi le truc dans lequel le mec mettait son
exactement,
bras.
Exactement,
ah, c'est ça, d'accord, d'accord, okay.
Exactement. Moi j'étais le ventriloque, hein, j'étais pas la marionnette.
Ah, d'accord,
ah, d'accord, ça dépend des soirées.
Là, dis donc.
Tu vas tirer ta montre.
La rapidité du flow, j'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie du sport de l'exercice, c'est-à-dire que...
Ouais, ça correspond à une époque, ça. C'était une époque où les BPM étaient... voilà, enfin, c'était plus la tendance du moment était vachement plus rapide, et puis d'un seul coup, on a commencé peut-être à devenir un peu des musiciens, donc un peu plus mélomanes, enfin un peu... Voilà, les BPM ont ralenti, donc battements par minute, pardon. Et donc, de fait, on a commencé à... puis... Ouais, voilà, comme je crois que j'étudie, en fait.
Et la mémoire, parce que moi ce qui me scie, c'est la masse de textes, la quantité de textes par rapport à une chanson normale, il doit y avoir, je sais pas, 5
même
à
10 fois. Même moi ça m'étonne, je t'avoue, quoi, parce qu'aujourd'hui, non, mais je fais un petit peu de cinéma, quoi, et je me rends compte que pour apprendre des trucs que j'ai pas écrits, c'est chaud. Une galère de fou, quoi. Ouais. C'est-à-dire, moi, mon fils, il arrive à la maison, il prend une récitation, il fait ça, et je dis vas-y, apprends. Hein. 10 minutes après, il a la page entière, il me fait c'est bon. Moi, pour apprendre une page, il me faut 4 jours, tu vois, genre...
D'un texte que vous n'avez pas écrit, dans rôle au cinéma.
Ah ouais, c'est une galère, quoi, pour l'apprendre vraiment, être à l'aise avec.
Et non, retrouver tous les textes d'NTM.
Bah, ouais, si tu les pratiques pas régulièrement, t'as 2-3 oublis. Mais bon, t'arrives à la répète, tu les refais, c'est une mécanique, quoi. Ouais, ça peut être impressionnant de se dire... moi aussi, quand je vois, je sais pas, un comique sur scène, et je me dis, putain, le mec, ça fait 2 heures que... C'est pas loupé, hein, il envoie et tout. C'est la mécanique
c'est
du truc, ouais, c'est un exercice. Une fois que nous, dès qu'on répète, enfin, ça va très très vite, quoi. Il y a pas de moment où on est là avec des feuilles.
Hein. Moi, c'est retour de vacances. Hein.
Ouais, mais tout le monde
parfois,
au départ.
Que c'est même pas moi qui les écris. Il y a même pas une bribe de.
C'est quoi cette cordelage bordel
par moment, je me dis putain, c'est moi qui ai dit ça, disons. Eh ben écoute.
Et justement, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu ça aussi.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que
ça, c'est toujours d'actualité. Ça,
ça surtout est failli être notre licenciement chez Sony Music, ça, ce morceau-là.
C'est-à-dire
que le patron de Sony Music voulait pas sortir le disque et. Donc il n'a pas fait de menace, mais en tous les cas, il a dit voilà, on sortira pas le disque avec ce titre-là. Et le patron de notre label, qui était Christophe Lamennière à l'époque, a dit voilà, si on sort pas le disque comme ça, moi je démissionne.
Mais qu'est-ce qui le gênait dans ce titre-là? C'était la menace sociale, c'est
ouais,
quoi?
Ouais, sûrement. Allons aller les user, brûler les vieux, etc. Ouais. Enfin, je suppose que tu vois, il cautionnait pas tellement le texte et qu'il s'est dit qu'il allait sûrement avoir des problèmes, j'en sais rien. Et à ce moment-là, voilà, notre directeur de label est monté au créneau et a dit.
Il faut le saluer, t'as raison. Ouais. Il y a eu des textes qui ont vraiment été sur lesquels vous avez dit ok, vous avez fait des concessions en disant c'est bon, on le fait pas.
Non.
Ou vous n'avez jamais rien concédé?
Non, parce que je pense que quand on écrit, on a notre propre censure, notre auto-censure. Enfin,
on n'est pas dans la provocation, en fait, surtout ça, contrairement à ce qu'on a pu penser, quoi. On n'a jamais fait de la provocation. C'est du constat d'urgence, on faisait ce qu'on avait, quoi. On cherchait pas à être le plus tendu possible, le plus spectaculaire ou autre. Comme je disais, c'est pas de la provocation.
Quand Renaud fait où est-ce que j'ai mis mon flingue, par exemple.
Justement, pourquoi on reproche toujours
au rap? Exactement
la
même chose que qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. C'est la même métaphore, quoi. Et bon, quand c'est Renaud qui te la sort, bon, on dit que c'est un texte de révolte, rebelle, machin, mais on n'est pas, voilà, quand c'est fait par nous.
Et pourquoi?
Parce que la forme, tu t'entends, c'est pas Renaud, là.
Ah, tu vois, non, mais ça veut dire qu'en fait, c'est pas fait comme ça.
Donc, d'un seul coup, il a.
C'est quoi la crainte d'un...
C'est con, vous auriez mis un foulard, ça serait passé.
Non, mais c'est vrai,
pourtant, on avait des bandanas.
Au bon endroit. On n'avait pas la barbe de violeur de biquet, c'est ça le problème.
Non, c'est vrai, c'est le côté injuste. À chaque fois, on reproche aux rappeurs dans leur texte une forme de violence qui serait prêt à mettre à exécution.
On a aussi reproché au rap la violence en banlieue, tout ça. C'est un peu le prisme des médias, ça. Nous, on n'y peut rien, quoi.
Non, mais ça veut dire qu'en fait, c'est un mouvement.
On le voyait comme synonyme de violence, quoi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je parlais de colère, on a un peu confondu virulence et violence, quoi. Nous, on avait des propos, c'est vrai qu'ils relataient des choses, mais du côté de notre côté de la barrière, c'est sûr, mais à aucun moment on était... On écrivait pour engrainer, pour filer le tournis à je sais pas qui, qu'il aille faire n'importe quoi derrière, voilà, quoi. Même dans un morceau comme Police, C'est un ressenti. Tels sont les rêves que fait la nuit Joe et Joe, quoi. C'est pas, vas-y, prends des balles et va brûler un keuf ou va, tac. On n'a jamais été des pompiers incendiaires, quoi. C'est pas le sujet, quoi.
Non, mais il y a quand même l'envie de créer le scandale, puisque après vous vous retrouvez en 99.
Non, mais faut pas confondre. On a, comme on le disait tout à l'heure, il y a un franc-parler qui te donne cette sensation-là. Mais non, c'est pas l'envie de créer le scandale.
C'est vrai que quand vous avez fait nous, Paris sous les bombes, c'était pas les bombes.
Chou, laisse-moi parler. On s'est appelé Nick ta mère, tu sais pourquoi? Parce que c'était à une époque où on faisait des graffitis et tout le monde s'appelait Criminaux, le machin, avec des noms à consonance anglaise. Nous, sauf qu'il y en avait qu'un qui parle anglais, mais sur une bûche, c'était lui. Et nous, on était 50 derrière à pas parler anglais. Donc, on n'allait pas s'appeler criminaux, mon cul, tu vois. Donc,
m'a toujours donné le diplôme du bonnet, là, moi, quand même, tu vois, alors que mon anglais est dégueulasse.
C'est vrai, maintenant, je dois mieux parler anglais.
Je te jure que... 1999, carrière solo, cette fois-ci. Joey, en tout cas, vous fondez un collectif.
Yeah, on le shit, mais chute, je fly en parachute. Flûte, je bute sur une boulette. C'est comme le coup de la roulette russe. Mon cerveau fusqué, brusqué. Par le shit c'est extra, l'extra, je connais pas, je la laisse au rêveur, dreamer, frimeur, que je suis au stick, primeur que je suis au.
La meuf que je kiffe, elle s'appelle Marie-Gène. Il paraît qu'elle gêne, c'est dans ses gènes. Avec elle, j'ai les yeux explosés, je peux pas m'exposer, je suis plus suspect que Kaiser Sosé.
Le point de départ était encore le graffiti là aussi.
Phrasé. Non, c'était pas le graffiti, ça s'appelait Boss of Scandal, c'était un label quoi.
Vous avez dit dans une interview, à la base, Boss était un
groupe. Faut pas tout ce que disent les journalistes,
mais c'est toi qui l'as dit.
Non, c'est avec tes phrases là.
Groupe de graffiti artistes, coalition avec un team de graffiti avec lequel j'étais, DCM. Non,
mais c'est pas parce que le mec a relaté le truc en disant des conneries que forcément faut que je te dise oui.
Alors c'est quoi la naissance de Boss?
Non, Boss c'était un label, On a pris les artistes et on a monté un label qui s'appelait Boss of Scandal, voilà. Toute la prod se faisait de chez moi, on avait signé chez Sony, enfin voilà quoi.
Qu'est-ce qui fait la différence entre une prod et l'autre? Certains peuvent avoir le sentiment qu'il y a juste un rythme, une boîte à rythme et.
Bah déjà, c'est jamais le même, déjà. Voilà, faut savoir ça déjà. Et puis les gens qui kickent dessus n'ont pas la même intention non plus. Donc quand on a envie d'entendre la même chose, on entend la même chose si on n'écoute pas. Mais c'est jamais la même chose.
Moi,
quoi.
Je pense que c'est propre aux gens qui sont vraiment extérieurs et qui veulent pas vraiment faire l'effort. Quoi. C'est comme si tu dis j'écoute du reggae, j'entends toujours le même rythm. Quand moi j'entends du hard rock, je vais entendre un riff de guitare si je veux caricaturer.
Bien sûr.
Mais si je tends un peu l'oreille, je vois bien que les morceaux ils sont pas identiques. Ouais. Quoi.
Vous créez votre société, Cool Chain, ça s'appelle For My People.
Donne-moi des beats fat, c'est ce qu'il me faut. Somme tout le mélange, du caisse claire de kick, classique comme Jalis. Aujourd'hui c'est Foilis, fois de For My Pips. Plante au décor, sombre accord, comme la vie de bâtard. Je mets n'importe ce bordel, organisé, ouais, par l'Elysée. Somme déguisé, je veux pouvoir briser ce bise et miser sur des prods fat, visible. Afin de pas perdre l'essence, t'auras plus qu'ici, c'est pas Byzance, puisqu'on vit en ce
monde. À l'arrêt d'NTM, il y a eu la question de. Qu'est-ce que je vais faire? Faut trouver quelque chose? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?
C'était un peu avant déjà, puisque je commençais à travailler avec Bostaflex alors qu'on n'avait pas encore fait le dernier album d'NTM. Donc j'ai rencontré petit à petit avec le monde de la musique différents artistes avec qui on a eu des affinités, et puis on a fait ça un peu au départ juste un peu par-dessous la jambe, et puis c'est devenu sérieux. Donc à un moment donné, j'avais 2-3 artistes à produire, dont Zoxy, dont Bostaflex, dont Salif, Serum, il y en a eu pas mal derrière encore. Et donc ouais, on a monté un label, on s'est senti responsable et capable de mener nos choses à bien.
Et de transmettre aussi, c'est-à-dire de permettre à d'autres de pouvoir être produits, de pouvoir exister.
Ouais, évidemment.
Qu'est-ce qu'il y a de plus dur?
Mais c'est très égoïste aussi.
Pour ceux qui démarrent
aujourd'hui. C'est très égoïste aussi la démarche. C'est encore une fois, on fait toujours les trucs. Genre ouais, vous avez sorti. Ouais, mais c'est tellement une passion et un kiff de le faire. C'est pas genre ouais, j'ai pas fait du bénévolat quoi quelque part. C'est pas que je l'ai fait pour l'argent, mais je veux dire moi ce que j'ai pris moi, c'est eux qui me l'ont donné. C'est pas l'inverse quoi. C'est des gens qui m'ont permis d'être au niveau, je me suis nourri de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Je parle de Busta, mais Zoxy, Serum, Salif. Mais auparavant, quand on rappait dans NTM, il y avait les psychopathes qui étaient derrière nous, qui étaient la nouvelle génération, qui nous a poussés. Sinon, je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des gens qui sont derrière et qui sont la nouvelle génération pour te pousser, soit t'es un génie et t'es capable d'être un génie jusqu'à 50 ans ou 60 ans, t'es toujours un avant-gardiste encore.
Ouais.
Bravo. Mais nous, on a eu aussi besoin de côtoyer des gens pour pour être toujours dedans, quoi. Enfin, moi, perso.
On en a parlé, enfin, vous en avez parlé tout à l'heure, et on a demandé à Bernard Zécri, merci Bernard de venir à notre micro, directeur de Radio Nova, des nouvelles éditions indépendantes, c'est-à-dire Les Inrock et Nova. C'est dans les années 70 que vous êtes parti aux États-Unis, que vous avez découvert ce mouvement hip-hop?
Oui, c'est dans les années 70, mais enfin, j'étais pas tout seul à les découvrir. Enfin, je veux dire, ça s'est passé à ce moment-là. On a du mal à imaginer, mais en fait, au début des années 80, c'est bien avant Obama. Et donc, par exemple, pour un gars du Bronx, prendre un taxi dans Manhattan, c'est pas un truc simple. C'est même assez compliqué.
Le racisme était permanent partout, à tous les niveaux.
Oui, enfin, il était plus présent qu'il a été par la suite. Et enfin, quand j'y repense, par exemple, il n'y avait pas du tout de couples interraciaux. Par exemple. D'accord. C'est la première fois, moi, que c'est à l'occasion de l'explosion du rap. Ça, c'est un des trucs qu'on oublie, mais que j'ai vu justement des b-boys du Bronx danser avec des top modèles dans les boîtes de New York.
Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où vous vous êtes dit, je vais revenir en France en me faisant écho de ce qui s'y passe, parce que il y a tout pour que la graine prenne en France et qu'il y ait un écho à cette musique?
Bah, c'est-à-dire que, enfin, c'était vraiment une énergie joyeuse au départ. Enfin, c'est-à-dire que, bon, moi, je faisais partie un peu des branchés qui allaient écouter du rock et les groupes de l'époque. Il y avait comme un peu un sentiment d'impasse. Les gens dans le rock, enfin, le début du rock, c'était on va changer le monde. Et on voyait bien que le monde n'avait pas changé grâce au rock, quoi. Et le hip-hop, c'est différent. C'est, je vais me faire une place dans ce monde-là, auquel j'ai pas droit, j'ai pas accès. Et donc, il y avait une énergie, encore une fois, incroyable, et ils ont tout réinventé, c'est-à-dire le langage, la mode, la façon de marcher, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, même ils comprenaient pas ce que ils ont inventé des nouveaux mots qui n'existaient pas, qui étaient pas dans le vocabulaire anglais.
C'est un peu de l'argot, non?
Oui, ouais. mais mine de rien, ça a enrichi la langue, etc. Et donc, quand ils sont... bon, alors, il y a eu des tubes, hein, Sugar Hill Gang, tout ça, etc. Mais
Africa Bambaata, qui étaient les premiers, non?
Oui, ils faisaient partie des pionniers, avec Flash, avec DST, bien d'autres. Mais donc, ils ont inventé, je le répète, des mots. Il y a un nouvel art. Enfin, je veux dire, ça a influencé considérablement toute la culture de ce siècle, à savoir le sampling, mixé, la danse. Évidemment, enfin, le hip-hop, c'est tout un monde, une culture, faut bien comprendre ça. Et donc, ils faisaient ça dans le Bronx, il y avait des parties, tout ça, c'était très loin du commerce. C'est-à-dire que le hip-hop, ça s'est pas inventé dans les maisons de disques, ça s'est inventé dans la rue, et c'est vrai ça. Et donc, pendant un moment, d'ailleurs, le business du disque, ils savaient pas quoi faire de cette nouvelle culture, de ces nouveaux artistes. On savait pas très bien, ils savaient pas très bien. Alors, il y avait la danse, il y avait les graffitis, il y avait les double dutch
et puis les fringues, enfin, tout.
Voilà, donc ouais. Bon, moi j'étais assez épaté par tout ça, ébloui, donc je me disais ouais, ça serait super qu'on aille en France. Et bon, d'ailleurs, on n'est pas venu cette tournée, on a été en Californie, on a été à Londres et on est venu ici en France. Les trois quarts du temps, c'était des flops monumentaux, parce que les gens comprenaient pas ce qu'on venait foutre. Enfin, ils se disaient, mais où sont les musiciens? c'est quoi ce truc? Voilà. On était en Californie, je veux dire, dans le public, il y avait Ice-T, il y avait Dr. Dre. Ils savaient pas ce que c'était à l'époque, ça, hein. Ces mecs-là, ils se sont branchés parce qu'il y avait cette tournée. Et donc, voilà, moi, je suis venu en France à l'époque, j'ai réussi à convaincre une radio périphérique, et voilà, on a eu un peu d'argent. Et,
c'était laquelle?
Europe 1.
Voilà, il faut le dire.
Et
ils ont besoin de plus, en ce moment.
c'est eux qui ont payé pour l'arrivée du rap en France. C'était très drôle, d'ailleurs, l'arrivée, parce que les mecs faisaient des graffitis sur les camionnettes Europe 1, pensant que Europe 1 allait être très flatté. pas du tout content, et voilà. Et
mais alors, comment expliquer que le rap ait une position en radio et en média presque de ghetto? Le mot est peut-être un peu fort, mais comme réservé à Skyrock, par exemple, et n'ayant pas forcément sa place sur d'autres radios. Il y a le Move aussi qui fait sa place aux musiques urbaines, mais pourquoi il y a toujours encore là, en 2017, une mise à part de cette musique?
Bah, c'est assez inexplicable, parce que c'est vraiment devenu, je trouve, un truc universel. C'est-à-dire que quand il y a les révolutions, le printemps arabe, la bande son en Égypte, en Tunisie, c'est le rap, c'est le hip-hop. Dans tous les pays émergents, c'est d'une force absolue. C'est une musique qui n'est pas encore aujourd'hui tout à fait polissée, tout à fait, même si le business est quand même a pris le dessus, on peut pas dire le contraire, mais en tout cas ça c'est
comme le business a pris le dessus sur le rock aussi
depuis très longtemps, mais il y a quand même des relents un petit peu racistes, xénophobes, quand on voit de grands intellectuels français venir pourrir et dénigrer cette forme d'art, c'est incroyable, parce que justement la France,
alors que le mec est fan de rock, quoi, avec des textes qui sont pas spécialement mieux écrit, quoi.
Toujours, quoi.
Ouais, voilà. Et le mec vient dénigrer. Enfin, je laisse finir. Non, mais c'est ça, c'est exactement. On comprend pas pourquoi. Bah, des pseudos intellectuels qu'on peut voir.
Intellectuels, parce qu'on va pas leur retirer ça. Ils ont un dénigrement absolu, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi dans un rap, on parle de violence, et on va considérer que vous allez la mettre à exécution, parce qu'il y a toujours eu un racisme. C'est aussi ça, c'est une autre culture.
J'avais le discours avec Zemmour en direct, où il me disait qu'il avait dit que le rap était une sous-culture, quoi. Donc je lui avais juste répondu en quoi le rock était une... parce qu'il était fan de rock et qu'il considérait que lui que ça c'était de la culture. Je lui ai dit en quoi on peut mettre ça en parallèle
et se dire que ça c'est en dessous. Il est dans sa zone de confort avec cette musique là.
C'est un faux débat en fait. C'est moins la musique qui le gêne que ceux qui l'écoutent.
Ceux qui la font.
Historiquement, on se souvient pas de ça, mais ce qui a permis au rap de devenir universel et de toucher un beaucoup plus grand public, c'est le PDG de Sony en fait, parce que à l'époque quand Michael Jordan,
France ou
non, Amérique. L'explosion du rap, ça coïncide avec l'explosion de MTV. Et en fait, MTV au départ, ça joue pas les artistes noirs.
Ah, il y avait zéro noir.
Ouais, voilà. Et le gars qui se bat pour faire jouer un noir sur MTV, c'est ce gars-là dont j'ai oublié le nom, mais le PDG de Sony, et il menace MTV de boycott s'il passe pas Michael Jackson. Mm-hmm. On sait ce que Michael Jackson est devenu, enfin ce qu'il est à l'histoire des clips, mais le fait qu'il ait obligé MTV à jouer Michael Jackson,
qui a été le premier noir passé sur MTV, c'est Michael Jackson.
Oui, absolument. Et il faut bien comprendre qu'avant MTV, il ne joue pas de noir. Point. Voilà. Et c'est ça, c'est hier. Ouais,
c'est Dire Straits, hier, c'était Sting, c'était.
Ouais, voilà. Ouais, donc on a du mal à se souvenir.
Et on est en quelle année à ce moment-là, Bernard Zekri?
C'est de 81, non.
Ah non?
Ah oui, non, Michael Jackson, je parle de Thriller, de cet album-là.
83.
Là, il n'a toujours pas joué sur MTV.
C'est fou.
Et donc le fait qu'il fasse que Michael Jackson passe, derrière, en fait, ça fait Run DMC avec Walk This Way, etc., qui sont d'énormes tubes. Et
c'est un joli croisement entre le rock et le rap, d'ailleurs, entre les deux cultures.
Et les mômes blancs, le white trash en Amérique, ils se branchent là-dessus, comme des fous d'ailleurs. Ils se mettent, c'est ça qui est extraordinaire, même dans le langage, etc., ils se mettent totalement à s'approprier ces expressions, ces looks, etc.
Il faut dire qu'aujourd'hui, le rap est étudié à l'université, c'est-à-dire que c'est vraiment reconnu comme une culture, il n'y a plus de débat là-dessus.
Absolument, et je tiens à le dire aussi, c'est-à-dire qu'en France, il y a l'originalité du rap en France, enfin ce qui s'est passé avec le rock, c'est-à-dire que les Français se sont mis à copier les Américains, ça s'est pas passé en France parce que la nature, je pense que par exemple la chanson française, c'est un truc important dans le rap, parce que tous les gars qui ont démarré, moi je me souviens des pionniers, il y avait les gens de NTM, mais il y avait aussi des gens qui sont pas devenus célèbres, genre je pense à Lionel D, Johnny Go, Destroy Man, tous ces gars. Enfin, Lionel D, par exemple, il écoutait énormément, Jacques Brel, les Charles Aznavour, ouais, etc. Et ça fait... Bon, avec une histoire différente aussi, qu'en France, il y a l'histoire du colonialisme, l'émigration, tout ça, qui font que ça a une nature différente.
Merci mille fois, Bernard Zekri, d'être venu à ce micro. Avant de partir, c'est vous qui reprenez la direction de l'information de France Télévisions
Oui, j'ai reçu un coup de fil.
Ok, c'est une bonne nouvelle. Je vous présente Leïla Dobou-Dadi. Daniel Morin, je sais j'avais un truc à vous dire, mais je sais. Ah si, NTM a marqué l'histoire évidemment de ces 30 ans avec leur début. Joey Starr et Kool Chain restent les figures emblématiques, incontournables du rap. En plus, moi je trouve qu'ils n'ont pas pris une ride. C'est pas les lunettes noires qui
ont
pris.
Non, mais ça va, ils ont toujours le feu. Oh, tais-toi. Wesh, gros, big up, Mr. Guy. Salam alaikum, le sarrasin, nom de Dieu. Mr. Guy. Seigneur Guy. Le même Guy qui se paluche en écoutant Vianney. Le monsieur Guy qui kiffe Christophe Maé. Arrêtez, bon sang, vous êtes le fossoyeur de la vraie musique et du bon goût et de la vie en général. Et puis, arrêtez de nous mentir. Ah vous bon détestez les vétérans, les patriarches, comme tous les vieux que vous représentez ici. Vous vous vautrez dans le jeunisme avec vos fringues cheloues et vos pompes à la Zavata. Vous faites un déni de vieillesse, voilà ce que vous faites. Qu'est-ce qui m'a dit encore ce matin, le vrai punk, c'est pas les Sex Pistols, c'est les bébés brunes, hein? Qui c'est qui m'a dit, la vraie chanson engagée, c'est pas Léo Ferré, c'est Zazie? Qu'est-ce qui m'a dit, le vrai rap, c'est pas NTM? NTM, ça tient pas la route face à Black M ou Hervé Villard. C'est vous, monsieur Guy, reconnaissez-le, bordel de Dieu.
Hervé Villard, j'ai un faible.
Pour une fois, je comprends, ayez du cran. Seul exemple qui vous sauve, c'est quand vous m'avez dit qu'au niveau politique, vous aimiez Emmanuel Macron parce qu'il vous rappelait le maréchal Pétain. Là oui, presque pas. Arrêtez avec votre séance de tartinage et de tirage de pompe pour NTM, vous êtes jaloux et puis c'est tout. Ça vous agace hein, que Cool Chain arrive en hélico sur le toit de Radio France et pas vous. Ça vous agace que Joey Star ait fait l'amour avec toutes les stagiaires sans avoir à les payer, contrairement à vous, hein? Réglons les pendules et les trains arriveront à l'heure. Ça veut rien dire, peut-être, mais c'est pas la première fois que je m'inspire de vous en disant
N'importe quoi.
Merci. Voilà,
c'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au début.
Cool Chain et Joey Star sont nos invités jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Daniel.
Bonjour Daniel.
Et nos invités Cool Chain et Joey Star. MTN.
Ou bien le pire est à venir, bébé. Augmente les dB, yeah yeah yeah. Tout le monde dans la place fait yeah yeah yeah.
La main juste, je vais juste. Tu crois que tu vas me la faire à moi, mais je vais juste. Et je suis pas prêt à lâcher l'affaire, mais je vais juste. Tu crois que tu vas me la faire à moi, mais je vais juste.
Si on passe pas dans leur radio, on fera le tour, c'est pas grave. Le plus dur c'était de sortir de la cave.
Et les gens le savent, on est encore là.
Que tout le monde est cordable.
C'est ça que tu veux pour ton fils. C'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils.
NTM se reforme pour 3 concerts voire plus exceptionnels à Bercy les 8, 9 et 10 mars. Les places partent extrêmement rapidement, ce qui reste quand même un plaisir sûrement à entendre ce genre de nouvelles. J'imagine que vous recevez des textos, que le producteur vous appelle en disant c'est un carton plein. Il vous demande même une quatrième date déjà.
Tu reçois même des textos de gens que tu avais complètement oubliés.
Qui donnent des places gratos.
Tu peux avoir 8 places.
Au cousin.
Il y a une politique tarifaire ou pas pour vos concerts? Est-ce que c'est un truc que vous menez?
En tous les cas, ouais, on essaie de ne pas exploser le prix des places. Quoi. Mais forcément, quand tu fais Bercy, il y a une espèce de rentabilité nécessaire.
Je pense que ça, déjà, elle coûte, non?
Ouais, très cher.
Ouais.
Enfin, ça, c'est l'histoire de producteurs, hein, ce n'est pas les miennes. Mais, non, mais il y a des places à 45, je crois, non? Les moins chères, dans la fosse, je crois.
Et l'idée de rajouter une quatrième date, enfin, il y a un moment où ça peut se... vous pouvez faire une semaine entière ou vous allez mettre le haut là en disant on va quand même se calmer parce que physiquement, on parle de sport, on parle de dépassement de soi, mais il y a un moment où physiquement, faire 2 heures ou 3 heures de scène, c'est chaud.
Clairement, c'est difficile d'en faire plus que 3 réellement collés, quoi. Mais on peut faire sur 2 semaines.
Un jour off, quoi.
Enfin, ouais, on peut faire 2 jours off et puis recommencer.
On parle un tout petit peu de comédie parce que vous avez tous les deux, dans les. Il y a quoi? Il y a 5-6 ans, commencé à jouer, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Le premier des deux, je pense, c'est toi, Joey, avec Max. C'était ça la première expérience?
Non, c'était avant ça, il y avait le bal des actrices, il y avait plein de trucs avant ça. Max, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, non?
Le
bal des actrices, c'était
bien. Ah ouais, c'est vrai, Alors, le premier film, c'est la première expérience?
Je ne me rappelle plus, mais ça devait être une merde, je ne sais plus. Franchement, la chronologie et moi, on n'est pas copains.
Non, mais sérieux, je crois que c'est le bal des actrices,
le premier vrai truc.
La tour Montparnasse infernale.
Ouais, non, on ne peut pas dire que j'ai eu des sensations ce jour-là.
Non, c'est la première, en tout cas.
Merci, mais on ne peut pas dire que pour moi, ce soit un souvenir...
marquant.
Mais c'était en 2009 le bal des actrices.
Le bal des actrices c'était déjà plus intéressant puisque il y avait pas mal d'impro. Maïwenn m'a casté au dernier moment. J'ai fait aussi un morceau pour paroles et musique pour Charlotte Rampling dans le même film. J'étais nominé au César cette année-là aussi. Enfin voilà quoi.
Et 2014, vous, Coach Jeanne, vous avez le premier rôle masculin dans Abus de faiblesse avec Isabelle Huppert.
Ouais.
Ça doit le faire.
Ouais, ça fait peur, surtout.
Parce qu'elle joue tellement bien.
T'as vu où elle était, là, un de peu. Mais non, mais c'est énorme. J'étais même pas sûr de moi, je savais même pas si je voulais le faire. C'est presque un peu mes potes qui m'ont dit, genre, vas-y, tu vas arrêter de te chier dessus, vas-y, si ça te fait plaisir et si t'as envie de le faire. Donc je suis allé un peu par hasard, hein, puisque c'est Bréa, moi, qui m'a contacté. Je voulais pas spécialement faire du cinéma, donc j'ai fait des essais. Apparemment, c'était plutôt concluant, donc on a fait, mais ouais, tiens, un peu avec le trio met à zéro quand même.
Et on vous a pas proposé ensemble de faire des. Jouer en film dans un film ensemble?
Non.
En même temps?
Non. En même temps, franchement, je vois pas le grand intérêt de nous mettre
un
dans
effet
un
com.
Film. Ouais,
un effet de com, c'est pour juste.
On pourrait faire Henri Salvador et son agent.
Donc,
par exemple,
ça peut être pas mal. Ouais, mais une chaîne Henri Salvador, ça le ferait pas trop quand même.
Non, mais je veux dire, il serait l'agent d'Henri Salvador et moi je jouerais Henri Salvador, tu vois.
C'était ça la
même. L'inverse. Ou
et là, il y a déjà des mecs qui sont en train d'écrire.
Oh putain.
Il y en avait des en carton sinon, non?
Linda de Souza.
Tu vas faire le garde du corps
de Linda de Souza et toi tu joues Linda de Souza. Ça peut être pas mal. Ça, ouais, tu vois, il y a plein d'idées. Hein,
les prochains projets, justement, au cinéma, ça serait quoi? Vous avez envie de faire
ça?
À part ça. Il y a déjà des choses signées ou des
ouais, là,
films tournés?
Je pars là dans 3 jours en Thaïlande pour tourner un film de Xavier Duringer qui s'appelle Paradise Beach. Bon, après, le titre peut toujours changer entre temps.
D'accord. Style de travail.
Voilà, avec Sami Bouadjila, Horatica.
Parfait. Alors, c'est une comédie content. Ou c'est.
Non, pas trop.
Pas trop.
Non, c'est un film de genre. Ça va défourailler un peu, voilà.
Joey, il y a évidemment la tournée, on en a parlé du spectacle au théâtre.
Mais ça s'appelle.
Voilà. Non, mais ça c'est du théâtre, mais pour le cinéma.
Eh ben, je vais t'avouer honteusement que j'ai des projets dont j'ai oublié les titres.
Et le genre
j'ai un truc, c'est un peu. Ouais, j'ai un film de genre aussi avec Vanessa Paradis dans lequel je dois prendre des cours de danse, apprendre à jouer aussi de la cigar box. Qui devrait se tourner en début d'année. Enfin, au début, à la rentrée.
Avec
un
réalisateur.
J'ai deux trucs. Hein?
Quel réalisateur?
Tu vois, pareil, tu vois. Et j'ai aussi deux. Cet été-là, je dois tourner deux trucs. Donc, je vais t'avouer honteusement. Pareil. Voilà, il y en a un qui est au Maroc.
En fait, c'est les localités qui ont choisi.
Choisi les destinations.
La Thaïlande, le Maroc.
Alors, Dunkerque, je vais pas faire.
Dardenne, Dunkerque, j'y vais pas.
Voilà. Comme tu peux voir, voilà. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est des projets qui devaient se faire.
Qui sont décalés.
Qui ont compris du temps, et du coup, je me rappelle de ce que c'est, mais quant à te dire qui quoi. Voilà. Et puis surtout, comme tu peux le voir, je suis dans le rush, quoi.
Ah oui.
Donc de fait, excuse-moi, pardon.
C'est l'urgence, mais désolé.
Non, mais j'ai pas la mémoire des noms. Allez, bien celle-là aussi.
Voici l'humeur de Daniel Bois.
Et Nazdrovie! Ça y est, c'est officiel, c'est programmé, c'est prévu pour lundi prochain. Notre président va rencontrer Vladimir Poutine, l'empereur Emmanuel Ier, face à face avec le tsar de toutes les Russies, Vlad le Terrible. Une visite de prestige pour le démocrate russe qui sera reçu non pas à l'Élysée, mais au château de Versailles. Et ouais. Rien que ça, le château de Versailles. Espérons que ça va bien se passer. Avec François Hollande, c'était pas hyper chaleureux, la relation. La dernière fois que Poutine est venu, il a été reçu au Buffalo Grill, port de Montreuil. Il avait aimé l'entrecôte, mais la salade d'accueil n'était pas hyper fraîche. Du coup, il a fait un début de gastro. Vladimir, il est rentré très très fâché à Moscou. Dans la merde, le château de Versailles, ça le fait grave. Hein. Il est très monument historique, Emmanuel Macron. Après le Louvre, Versailles. Après la visite guidée de la cour du Louvre le 7 mai au soir, Emmanuel Macron reprend du service et remet sa casquette de guide le lundi 29 juin pour une grande visite du château de Versailles. Le château, les jardins, les écuries, le spectacle, les grandes eaux. Votre guide connaît tout par cœur. Il a été initié à l'histoire par Stéphane Bern. Stéphane Bern, animateur télé à bouclette, mais aussi ami des princesses et toiletteur officiel des Chiens de la Reine et d'Albert de Monaco. Pour l'occasion, il fera découvrir les fastes du château à Vladimir Poutine, démocrate, humaniste, tortionnaire, oligarque, président russe, en visite d'État. Le gratin de la diaspora russe sera bien
bien entendu présents sur place, notamment les frères Bogdanov, qui seront interdits de jardin de peur que le personnel jardinier les confonde avec des gargouilles de fontaine. Le soir venu, un grand gala sera organisé avec en début de soirée un spectacle son et lumière offert par la France, et ensuite la fête prendra le relais avec une grande nouba offerte par les chefs d'entreprise russes, une soirée VPC, vodka, pute et caviar. Voilà, ça c'est chic, c'est le retour de la grande Russie, le faste, le bon goût, le savoir-vivre slave. Maintenant, il va falloir qu'il fasse attention, Emmanuel Macron. Il va pas falloir que le doute s'installe chez Vladimir. Alors là, Vladimir, vous voyez, c'est les jardins qu'on appelle à la française. Tous les jours, des dizaines de jardiniers l'entretiennent.
Le château, beaucoup entretient ?
Ah bah, 17e siècle quand même, hein. Au niveau de l'isolation, on n'est pas super aux normes.
La superficie ?
Pas mal de place, hein. Un peu plus de 700 pièces, surface habitable, 5 hectares au sol, loi Carrez.
Vous avez ?
Vis-à-vis, loin, très loin. On est quand même sur 830 hectares de parc. Hein. Pour vous voir, depuis l'immeuble en face, il faut des jumelles qui n'existent pas encore. Là, on est tranquille.
Beaucoup de personnel ?
Ouais, plus de 900 personnes.
C'est beaucoup.
Oui et non, rien que la galerie des glaces, c'est quand même 357 miroirs.
C'est combien les charges annuelles et la taxe d'habitation ?
Ah, je sais plein, Vladimir, mais attention, hein. Oui, attention, il est pas à vendre, le château.
Alors, pourquoi toi faire visite à Vladimir ?
Mais c'est une visite de courtoisie du château de Versailles, il n'est pas à vendre.
Si. Si, tout ira un prix. Appelle Stéphane Plaza.
Non, je vous dis que c'est pas à vendre, arrêtez d'insister.
Vladimir, vouloir la maison Île-de-France ici, c'est pas fait pied à terre.
Ah non, c'est pas à vendre.
10 milliards.
Non.
10 milliards plus la dette de la France.
Non.
10 milliards, la dette de la France plus...
Plus ?
Plus la sextape d'Angela Merkel avec François Hollande, Silvio Berlusconi, Strauss-Kahn, Saddam Hussein et Nagui !
Ça marche ! Et il a raison, Vladimir, tout a un prix, les amis. Et puis franchement, 10 milliards pour une bicoque du 17e mal isolée, super bonne affaire. Bien joué, président. Vivement lundi prochain pour vérifier en tout cas si mes prévisions étaient bonnes à lundi.
Merci, Deborah. Merci, Frédéric. C'est plus.
Sur France Inter.
Pour Cool Chen et Joey Star, nos invités NTM qui se reforment pour fêter leurs 30 ans de carrière, vous avez concocté un brouillon de culture sur mesure.
Oui, je vous sors de la promo tous les deux, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture. Merci, ça me fait plaisir, Joey Star. On commence par un son tonné pour vous, Joey Star.
If any white man in the world says give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing,
et ouais, I'm Not Your Negro, un superbe documentaire que vous pouvez encore voir au cinéma. Il est passé sur Arte dans un premier temps. Il est à l'affiche maintenant des salles obscures. Un réalisateur derrière tout ça de ce documentaire, c'est Raoul Peck, à partir des écrits de James Baldwin. Et vous avez prêté votre voix, Joey Star, pour la version française. Pourquoi avoir accepté ce projet-là? Vous devez être très sollicité.
Déjà, il y a l'idée que c'est mémoriel, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et puis, c'est surtout Raoul Peck qui est venu me voir et qui pensait que j'avais le grain de voix et que je représentais peut-être un peu la personne la mieux placée pour faire ça. Enfin, Raoul est un dictateur haïtien, voilà. Enfin, quoi que c'est un pléonasme, dictateur et haïtien. Mais,
ça
voilà.
arrive.
Voilà. Et c'est quelqu'un de très précis, très brillant, et ainsi de suite. Et voilà, il a pensé à moi. Donc, au départ, je lui ai demandé, est-ce que je peux être ton dealer? Et ça n'a pas fait rire, donc j'ai accepté.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui est James Baldwin?
T'as vu, là, ça fait rire personne en deux secondes.
Hein. Mais moi, ça me fait rire, donc tu sais bien.
Moi, ça m'a fait rire instantanément.
Donc, voilà. Qui est James Baldwin? James Baldwin, faut savoir déjà qu'il a commencé, il était critique cinématographique, sinon il est écrivain, philosophe, et puis surtout, c'est à l'époque des droits civiques, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui vivait en France parce qu'il en pouvait plus du climat, et puis le jour où d'ailleurs dans le doc c'est très bien dit, j'ai oublié le nom de il y a une jeune fille qui se rend dans ce qu'il appelle le temple du savoir, donc qui va à l'école, une jeune fille noire, et qui se fait invectiver par tous les blancs du coin, les enfants, tout ça, les images sont très très crues. Et à ce moment-là, il est en France, il est à Paris, et il se dit on aurait dû y être, que ce soit moi ou les autres, et du coup il rentre et il se mêle avec Luther King, Malcolm X et Edgar Meseguer, enfin voilà, et les gars sillonnent le pays, voilà, c'est l'histoire des droits civiques, quoi, tout ça, voilà, donc il en était. Et le truc, c'est que tout le monde se fait tuer les uns après les autres, sauf lui, et il l'apprend à chaque fois, et à chaque fois, ça tombe comme un couperet. Enfin, c'est à voir parce que, voilà, quoi. c'est un pont de l'histoire humaine, quoi. Voilà, c'est quelque chose de très, de, c'est-à-dire que même si c'est l'histoire des États-Unis, c'est quand même c'est un pan de l'histoire de l'humanité, donc c'est bon de savoir, quoi. Autant pour les jeunes que pour les vieux, ouais. Un peu, on a tendance à vivre à l'heure des États-Unis pour pas mal d'entre nous. Ça, c'est bien de savoir ce qui s'y passe aussi et comprendre aussi ce truc culturel qu'il y a encore aujourd'hui par rapport aux blacks, les flics, enfin tout ça, tout ce climat, quoi. C'est quelque chose de culturel et de très ancré aux États-Unis, quoi.
Ouais, c'est un très beau documentaire.
Je l'ai dit avec mon langage de comique garagiste, mais je pense que
c'est. Non, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est un très très beau documentaire qui explique ainsi comment on a façonné l'image du nègre, entre guillemets, américain, et comment on est toujours héritier, et ça peut valoir aussi pour la France, de sa tradition parfois raciste, parfois colonialiste, et on pourrait très bien décliner ce sujet-là de Raoul Peck sur la population immigrée pour plein de raisons en France, et je trouve que c'est un vrai beau documentaire, s'il y a quelque chose à voir au cinéma en ce moment, c'est vraiment ça. Voilà, il faut en profiter tant que c'est encore à l'affiche. Un son à présent pour vous, Cool Chen.
Tu vas aller où tu veux aller?
J'en sais rien, je vais la crever, mais il va me lancer, c'est le con! Avec ses gants, la con!
Et vous, les merdes,
la gueule! Fais gaffe, Daniel! Fais gaffe!
Non, mais j'ai même pas où aller!
Fais pas chier, hein!
Arrête, merde, Bouli, t'es complètement con! Ça devient grave, là, maintenant, Bouli!
La grave!
Laisse tomber!
La grave, tu l'es!
Pas Bouli!
Y'a plus de Bouli!
Il n'y a plus de Bouli, Victor Lanoux, dans Un éléphant.
Tous, c'est ou l'un ou l'autre. Quoi.
Un éléphant, ça trompe énormément, avec Brasseur, Rochefort, Bedos. Et vous considérez que c'est un de vos films cultes? Pourquoi?
Ouais. Je sais pas, c'est un film qui m'a marqué. J'étais gamin quand j'ai vu les deux, quoi, à la suite, avec que des grands acteurs. Il y a Marthe Villalonga dedans qui dit à Guy Bedos, vous vous rendez compte, il me raccroche au nez de sa mère.
Et vous déclariez
quand même une époque, une écriture tac, puis enfin ça nous correspond à ça, on a un peu grandi avec tout ça, puis que avec ce bagou, ce langage fleuri tout le temps, et puis surtout ces personnages qui sont un peu vieille France, mais que nous on a eu en face avec les canons.
Je trouve que les dialogues d'Audiard vous iraient bien aussi.
Ouais, non, mais c'est pour ça que ce qu'il disait Bernard Zécry tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné on a grandi en France et notre hip-hop est différent des Américains.
Forcément.
Parce que
les racines sont
pas
les mêmes.
Parce que les films français avec la langue, avec voilà, c'est forcément on a cette empreinte aussi.
Et vous, Joe Star, c'est Jean-Pierre Marielle que vous avez approché. C'est pareil, c'est culte.
Ah bah là, le maître. Comme je l'appelle, qui a la main baladeuse, c'est d'une autre époque. C'est un peu la même chose aussi de Depardieu. C'est des gens qui ne souffrent pas l'entre-deux, qui sont, c'est des personnages en couleur. Et puis, le maître, il fait 7 mètres de haut, il a des poings grandes comme ça, même en ayant un peu Alzheimer, il fait des blagues,
voilà, il a une voix.
Et puis voilà, quand il ouvre la bouche, c'est une caverne qui te parle, tu vois, il y a de la gouaille, il y a de la tripe, voilà, quoi. Et puis, comment te dire, c'est des personnages, c'est pas juste des comédiens, quoi. Mmh. C'est des gens, voilà, tu vas les chercher, ils sont capables de tout. Parce qu'ils ont une dérision, ils ont un regard sur le monde, et puis ils sont capables d'être dans la dérision totale, même les concernant. Enfin voilà, ils sont d'une polyvalence extrême et surtout d'une générosité. Tu peux rien faire.
On n'est pas obligé de mal vieillir, quoi. Voilà, quand on les voit. Non, mais c'est vrai.
Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Vous disiez, Cool Chen, à vos débuts au cinéma, vous aviez pas forcément de référence ciné justement avant de commencer à en faire vraiment.
Bah si, celle-là, quoi. Par exemple,
voilà,
quand même, le cinéma français. J'ai grandi avec ça.
T'as vu moi en référence cinématographique.
À part Joe Star.
Je t'ai vu dans beaucoup de films.
Si, dans Max, votre premier film.
Et est-ce que maintenant...
Non, je connaissais... Je savais même que c'était le bal des actrices, son premier film. Ça va quand même.
Et est-ce que maintenant, vous avez cette envie-là de vous tenir au courant, de suivre des réalisateurs? Parce que justement, on vous propose des rôles, on vous propose des collaborations pour connaître des univers. Est-ce que c'est... Non.
Bah, quand on me propose, ouais, j'étudie le réalisateur qu'on me propose et tout ça. Non, je suis pas super passionné par le cinéma. Franchement, je l'avoue, quoi, c'est un peu honteux en tant qu'acteur.
Ah, non, ça vous enlève rien. Votre talent d'acteur. Non,
voilà, mais en tout cas, on arrive frais, quoi.
Et puis au moins, vous connaissez les films dans lesquels vous tournez.
Oui, c'est contrairement à.
Je sais quoi, là, je te merde. Avec mépris, je te merde, connard. C'est comme réponse.
Et tu n'imites personne, puisque tu as vu personne au cinéma, tu n'imites personne.
Exactement. Voilà. Hein.
Et vous, Joe Star, ça se joue de la même manière, ou vous avez tout d'un coup des réalisateurs dont vous avez envie de voir tous les films, une sorte de.
Non, moi, j'avoue que je regarde beaucoup de films, ouais.
Ouais.
Ouais, je regarde beaucoup de films. Par exemple, étonnamment, quand j'ai bossé avec Emmanuel Mouret, je connaissais le cinéma de Mouret, alors que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait être surpris de se dire que je regarde. Et j'avais vu quasiment tous ses films, mais lui était très surpris, par exemple. J'ai des remontées gastriques, hein, c'est la boîte que je me suis mise hier. Oui, voilà.
Il a zéro filtre, il a zéro filtre, et il dit tout ce qui lui passe par la tête.
Bah sinon je reste chez moi, disons. Parce que je m'entends très bien avec ma télé.
Je parle à la télé,
elle me répond pas, et tout va
ça se passe bien.
Voilà, ouais. Donc le cinéma d'Emmanuel Mouret, par exemple, ouais, qui
entre autres, voilà, surprenant. Mais comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai vraiment cette culture Verneuil, entre autres, enfin, qui est très large, et j'aime le cinéma français, j'aime la langue française, j'aime la France, enfin voilà quoi, c'est une déclaration d'amour qu'on a toujours faite au travers de ce qu'on fait déjà, et même la droiture avec laquelle on le fait, quoi, voilà, ça donne envie d'être honnête.
On est français, monsieur.
On est français, bah.
On est chez nous.
Ouais, roulez bien, roulez plein.
Ok, avec modération. Et donc, je finis avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Pourquoi faire ceci?
C'est ça, c'est vous qui me faites dire ça.
C'est ça. Et je finis avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Cool Chain, je vous offre Prince, Le Cygne Noir. C'est la biographie de cette grande légende signée Alexis Thym aux éditions La Découverte en partenariat avec Nova, justement, pour faire un clin d'œil à Bernard Zécry.
Merci beaucoup.
Et pour vous, Joey Star, j'ai choisi Django Reinhardt, le génie vagabond. Noël Baleine.
Parce que j'ai une tête de voleur de poule,
c'est ça ? Je vais finir aux éditions du Rocher. Pourquoi ? Parce que simplement, je trouve qu'il a marqué de son jeu la culture du jazz manouche et que je me suis dit que ça vous irait bien.
Merci, voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup.
Merci Leïla. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bah, désolé pour les fans de NTM qui ont découvert ce matin Cool Chain, fan de danse, un Joystar spécialiste des cartes, mais de la bataille. Je vous l'ai dit, les gars, ça peut surprendre. Désolé aussi pour nos jeunes auditeurs qui nous ont appelés pour hurler contre cette émission spéciale Troisième Âge, présentée par un vieil animateur et deux vieux chanteurs. Promis, on se rattrape bientôt. On va recevoir le duo Catherine Deneuve, Charles Aznavour. Désolé pour Arnaud Lagardère, hein, qui a découvert ce matin que cet Européen qui avait aidé à l'implantation du rap en France. En même temps, Arnaud, quand tu recrutes un lascar comme Epsil Pat Cohen, tu restes fidèle à ton histoire.
Merci Daniel, merci Joey Star, merci Cool Chain. Portez-vous bien, rendez-vous merci. Au mois de mars donc pour le retour de NTM. Et demain, nous serons là avec Marine Delterme, ça rime. Philippe Bertrand pour les carnets de campagne, bonjour Philippe.
Oui, salut Nagui, salut la bande.
Salut Philippe. Salut.
Je vais tenter un truc. Oh, mais ça marche pas bien.
C'est quoi ça?
J'essaie d'être ventriloque comme toi.
Ah oui, on aurait dit un AVC.
Non, alors, le ventriloque, je vous rappelle, c'est la personne qui parle avec le ventre. À ne pas confondre avec la personne qui parle avec les intestins. Parce qu'on dit de celle-là qu'elle se la pète. C'est différent.
Joli, joli.
Voilà.
Il est là, on est même en avance pour une fois.
Ouais. Vous pouvez me raconter une histoire? Non, j'y vais, j'ai eu du programme.
C'est vrai?
Ouais.
Allez, profites-en.
Merci les
ciao,
amis.
Ciao, merci. Salut.